Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Au programme aujourd'hui, inciter les salariés à œuvrer pour des associations sur leur temps de travail. C'est ce que propose Ista, spécialiste de l'efficacité énergétique des bâtiments. Nous serons avec la DRH du groupe. Dans cette émission, on répond aussi à vos questions avec nos avocats en droit du travail et avec vous, Jeanne.
Bonjour Erwan, aujourd'hui c'est une question sur les vêtements au travail à laquelle va répondre l'avocat Virgile Puyot. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Les Français ne sont pas assez fiers de leur entreprise. Comment inverser la tendance? Ça sera l'objet de notre focus. Et puis en fin d'émission, le Labo RH, comment mettre fin à la tradition obsolète des enquêtes RH annuelles? On en parlera avec le fondateur de Supermood. Voilà le programme, merci d'être avec nous, c'est parti. On vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Vous avez déjà eu envie de faire du bénévolat, mais faute de temps, vous avez peut-être abandonné cette idée. Et si votre entreprise vous proposait de faire du bénévolat, mais sur votre temps de travail, est-ce que ça ne changerait pas la donne? C'est ce que propose l'entreprise Ista à ses salariés et nous sommes avec sa DRH. Bonjour Aurélie Moujotte.
Bonjour Erwan.
Merci d'être là. Ista, c'est un spécialiste de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. 700 salariés en France. Depuis quand est-ce que vous permettez aux salariés de votre groupe de faire du bénévolat sur leur temps de travail?
Nous avons décidé cette année, en 2023, pour la première fois de proposer cette offre
aux collaborateurs. Donc
l'année dernière. Tout à fait.
Ouais. Donc là, c'est assez récent. Ça part de quoi, en fait, l'idée de se dire on va tenter ça?
Nous sommes une entreprise très engagée et nous avions à cœur de pouvoir aider certains publics. Mmh. C'est une volonté de la direction.
D'accord. Quel public en particulier? Vous pensez à quoi?
Nous avons identifié avec l'équipe de direction trois thématiques que nous souhaitions favoriser. La première, soutenir les actions en faveur de la préservation de l'environnement. Mmh. La deuxième, accompagner des publics en difficulté. Et enfin, la dernière, favoriser l'économie circulaire.
Bon, là, c'est encore court peut-être pour avoir du recul sur, les bienfaits et les conséquences. Est-ce que néanmoins, vous avez des premiers indicateurs qui vous permettent de dire que oui, c'est bénéfique?
Alors, tout à fait. Nous avons réalisé une enquête de satisfaction auprès de nos collaborateurs ayant participé à cette journée. On a aujourd'hui une note de 9,5 sur 10. Donc, on est plutôt satisfait de cette première expérience.
Qu'est-ce qui donne la note?
Nous avons été accompagnés par un partenaire qui a questionné nos collaborateurs et ce sont nos collaborateurs participants qui ont donné cette note.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de la satisfaction importante du côté de ceux qui font ces opérations de bénévolat. C'est plébiscité.
Tout à fait. On avait des collaborateurs très engagés puisque nous avons donné un cadre très précis. Il s'agissait de collaborateurs volontaires avec un cadre bien connu à l'avance puisque nous avons expliqué aux collaborateurs le déroulé de la journée. Et puis, bien sûr, un élément clé, c'était de pouvoir faire un bilan à l'issue de cette journée.
Ils sont combien à avoir tenté l'expérience?
Alors, pour une première édition, nous avons eu 62 collaborateurs qui ont répondu présents à cette opération. Nous avons fait le choix de commencer petit, mais nous avons de belles ambitions pour les années à venir.
C'est quoi les objectifs là sur l'année à venir?
L'idée, c'est de pouvoir avoir 20% de nos équipes qui puissent participer à ce genre d'événement.
Bon, c'est très bien. On voit aussi que c'est ça qui attire les talents. On se dit, tiens, c'est une entreprise qui propose ce type de service, d'option. Et ça peut être un argument d'attractivité pour les candidats qui voudraient candidater chez vous, chez Ista.
Tout à fait. C'est une façon différente de connaître ses collègues. C'est également en tirer une satisfaction personnelle très forte.
Parce qu'on peut faire ça en équipe. On peut décider de faire le même bénévolat à deux ou trois collègues.
Le maître mot, c'était quand même de maintenir notre activité, puisque nous sommes une société de service.
Donc, il ne faut pas que tout le monde parte en même temps, quoi.
Exactement. Nous avons organisé l'activité pour s'assurer que nos clients continuent à recevoir leurs prestations. Mais nous avons des équipes qui se sont joints avec certains collaborateurs d'une même équipe dans le, dans la même activité.
Et donc, on est payé quand on fait ça.
Alors, chez Ista, c'est un vrai choix. C'est sur le temps de travail, donc dans la semaine classique du salarié, dans les horaires classiques du salarié. Et en plus, c'est payé. C'est une journée comme les autres.
C'est combien d'heures? On ne peut pas faire trois semaines de bénévolat quand même.
Alors, nous avons choisi un modèle qui était une journée complète. Oui. Et chez nous, une journée est équivalente à un peu plus de 7 heures de travail. Mmh.
Donc, c'est quand même de la gestion opérationnelle pour mettre en place ce programme derrière qui est très ambitieux. Côté RH, c'est quand même une vraie réorganisation. On ne se lance pas comme ça, il faut être préparé.
Alors, nous avons découvert qu'on ne pouvait pas s'imposer, nous, petits RH, organisateurs de ce genre de réunion. Donc, nous avons sollicité un partenaire qui nous a accompagnés pour pouvoir contacter des associations et mettre en place avec eux les conditions pour réaliser ces journées.
Vous-même, les RH, vous trouvez le temps de faire du bénévolat ou c'est vraiment que pour les équipes, les collaborateurs?
On a constaté dans les collaborateurs qui ont participé que 89% d'entre eux n'avaient jamais eu d'expérience de bénévolat. En revanche, l'équipe qui a accompagné l'organisation de cette journée en interne a déjà des engagements associatifs par ailleurs.
D'accord. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise à court terme, à moyen terme? Quels sont les objectifs?
Alors tout d'abord, ça donne un sens à cette journée. C'était important d'accompagner des associations que nous avions identifiées avec des causes qui rejoignent les nôtres. Ça, c'est le premier point important. Ouais. Le deuxième, c'est ça permet aussi de créer un lien social différent dans l'entreprise, avec les équipes de l'entreprise. Et puis, c'est aussi un moment de détente et c'est également l'occasion de découvrir ses collègues dans d'autres environnements, en dehors du travail, où, bien sûr, à ce moment-là, la hiérarchie n'existe plus. Mmh. Nous sommes tous collègues.
Elle n'existe vraiment plus ?
Plus du tout. Ouais.
Pendant quelques heures, donc il faut en profiter, hein, mine de rien. Vous travaillez avec des structures qui sont en phase avec les valeurs de l'entreprise. J'imagine qu'il y a une certaine manière de les sélectionner. On travaille pas avec n'importe quel groupe de bénévolat, c'est ça ?
Exactement. Nous avons notre partenaire qui nous a permis d'identifier des associations en lien avec les causes que nous souhaitions soutenir. Ça nous a donc permis de travailler notamment avec des fermes pédagogiques, donc en lien avec l'environnement, une association dédiée à l'économie circulaire, ce que nous recherchions. Et enfin, nous avons eu la chance d'accompagner des enfants un mercredi et des publics en difficulté, ce qui était également notre volonté.
Ça attire plutôt des jeunes ou pas? Ou est-ce qu'on peut identifier quels sont les salariés qui sont intéressés par ce type d'action?
Ce sont des gens qui sont prêts à s'engager pour les autres. Je dirais qu'il n'y a pas de profil type. Chacun est venu essayer, se mêler à des gens qu'il n'aurait pas côtoyés habituellement. Et en tout cas, pour chacun d'entre eux, c'était une très belle journée.
Dernière question, mais sur les leviers, est-ce qu'il y en a d'autres? Ça, on voit que c'est un levier qui est important, que vous cherchez à développer, vous, chez Ista, pour renforcer l'engagement des salariés, pour attirer des nouveaux talents.
Alors, on cherche à créer des partenariats. Bien sûr, le premier partenaire, ce sont les écoles et tous les centres de formation qui forment les futurs collaborateurs de l'entreprise. Mmh. Et nous sommes également très engagés sur l'intégration de ces équipes qui sont nos futurs collaborateurs de demain.
Il nous reste une minute, Aurélie Moujotte, et c'est Marianne qui vous amène tout de suite la boîte du DRH. Je vais vous inviter à piocher deux petits papiers, des phrases à compléter pour essayer de savoir un peu mieux quel type de DRH vous êtes.
Dans ma boîte, pour régler un conflit, je privilégie le dialogue.
Ouais, ça fonctionne quand vous êtes confronté à ce type de situation?
Bien entendu, nous sommes dans des rapports humains, donc la première chose, c'est de discuter et de dialoguer pour essayer de trouver une solution.
Avec les deux personnes en même temps ou chacun à part?
Ça, tout dépend des solutions qui sont à trouver, donc on va avoir diverses situations qui vont se présenter.
Allez, on prend un dernier papier si vous voulez bien. Une autre phrase à compléter, dans ma boîte.
Dans ma boîte, je sensibilise les collaborateurs à la prévention, à la sécurité. Nous sommes très engagés en matière de sécurité. Nous avons tous les jours 350 techniciens qui interviennent dans les logements avec des situations de travail qui sont à risque.
Et donc quoi, de la formation?
Nous faisons beaucoup de formation. Ouais. Nous avons également travaillé avec un kiné ergonome qui a permis d'accompagner nos techniciens dans leurs gestes du quotidien, dans leur situation de travail.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Aurélie Moujotte, DRH d'Ista France. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. On retrouve Jeanne pour appeler notre expert, les questions d'auditeurs.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite l'avocat Virgile Puyot, avocat associé du cabinet Winston & Strawn, pour répondre à cette question de Mathilde. Virgile, mon supérieur hiérarchique me fait régulièrement des remarques sur ma tenue vestimentaire, tenue inadaptée, jupe trop courte. Cela me met mal à l'aise. Que puis-je faire ?
Alors tout d'abord, il faut savoir que la liberté de se vêtir à sa guise au travail n'est pas absolue. L'employeur peut ainsi apporter des restrictions à cette liberté vestimentaire pour des impératifs de sécurité ou d'hygiène ou dans l'intérêt de la clientèle, et ainsi exiger le port d'une tenue décente ou encore interdire de porter des vêtements négligés, voire sales. L'employeur doit toutefois toujours veiller à ne pas apporter aux droits et aux libertés des personnes des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Pour ce qui est de votre auditrice, il semblerait que les réflexions dont elle fait l'objet ne soient pas justifiées. Et les propos qu'elle rapporte sont graves et pourraient caractériser des agissements sexistes, voire des faits de harcèlement sexuel, tous deux réprimés par le Code du travail. Nous l'invitons donc à se tourner vers un représentant du personnel, un délégué syndical ou un avocat pour les faire cesser.
Merci Virgile Puyot. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
Comment vous faire aimer votre entreprise ? Voilà la question qu'on va poser à nos invités. On va en discuter avec... Bonjour Fanny Potier-Coninck.
Bonjour.
Vous êtes associée au BCG, experte des questions de leadership. Et avec nous également Stéphane Moriou. Bienvenue Stéphane.
Bonjour.
Un habitué de l'émission, puisqu'on vous donne souvent carte blanche dans Happy Boulot pour chroniquer un petit peu la vie de bureau. Cette fois-ci, on est très heureux de vous avoir avec nous en vrai, en plateau. Stéphane, je rappelle que vous êtes conférencier spécialiste du feedback, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations chez Duno. On parle de ça. L'entreprise, comment est-ce qu'on fait aimer cette entreprise ? Il y a une espèce de quoi ? Désamour ? C'est ce qu'on a l'impression quand on regarde l'étude que vous avez fait il y a quelques semaines au BCG. Peut-être nous la décrire et nous donner un ou deux chiffres marquants pour commencer.
Alors oui, donc l'étude, une étude d'à peu près de 11 000 salariés dans le monde, 8 pays couverts. C'est une étude qui nous parle avant tout du contrat social entre un collaborateur et son entreprise. Donc c'est quoi le contrat social ? C'est un contrat implicite ou explicite qui se dit mutuellement ce qu'on attend les uns des autres et puis qu'est-ce qu'on se donne en échange en matière de reconnaissance, etc. Et la deuxième dimension qui est amenée par l'étude, c'est on revient sur le sujet du management et du leadership et ouais. De quel management et de quel leadership on a besoin.
Sujet perpétuel. Parce qu'en fait, on n'a toujours pas trouvé la solution, hein, j'ai l'impression. On ne sait pas. On n'y arrive pas.
C'est un sujet en amélioration permanente, mais il faut dire que les éléments de contexte bougent vite.
Il y a plusieurs chiffres frappants. On ne va pas tout dérouler, parce qu'on ne va pas donner tous les chiffres. Il y en a beaucoup. J'invite ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à aller voir votre étude. On va quand même en donner quelques-uns. Il y a un salarié sur quatre, selon votre étude que vous avez faite au BCG, qui ne se projette pas dans son entreprise à plus d'un an. C'est quand même énorme. Et ce n'est pas un bon signe pour l'employeur.
Alors... Moi, je le regarde positivement.
Ah bon ?
Il y en a 3 sur 4 qui vous disent qu'ils se projettent à plus d'un an. Voilà. Après, 1 sur 4, quand on parle de gérer les entrées et les sorties de l'entreprise, c'est vrai que c'est beaucoup et c'est pas à ce niveau-là, ah oui. Si ça se matérialise, qu'on a envie d'avoir. Donc, il faut y prêter attention. On est dans un marché qui est en faveur des salariés aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de tensions sur le marché de l'emploi. Donc, il faut s'en occuper. Ouais. Et il faut adresser ces signaux.
Stéphane Moriou, on parlera bien sûr du feedback, puisque c'est une de vos spécialités, et ça peut résoudre pas mal de problèmes. Mais sur ce constat d'abord, qu'il y a une espèce de malaise, on se sent parfois inutile, ou en tout cas pas à notre place au travail. C'est un constat quoi ? Qui est alarmant ? Qui est inédit ?
J'aurais envie de rebondir un peu comme Fanny, en prenant un point de vue quand même positif d'abord, ouais. Et en disant finalement, quand il y a du mauvais management, parfois on génère des très bons entrepreneurs. Donc quelque part, il y a aussi peut-être dans tout ça, derrière toutes ces start-up qui naissent et qu'on voit souvent à Happy Boulot, aussi peut-être des gens qui ont été désabusés par ce management d'entreprise un peu traditionnel, qui s'est peut-être pas autant révolutionné que ça au cours des dernières années, alors que le monde a grandement changé, et ça a introduit d'autres choses. Donc dans le fond, peut-être que le constat n'est pas si mauvais que ça. Ouais. La question c'est, est-ce qu'on doit rester sur les modèles anciens et essayer de faire vivre le plus longtemps possible ces modèles modèles-là, ou est-ce qu'il faut inventer des nouveaux modèles dans un monde qui, lui, a complètement changé?
Il y a un autre chiffre que j'aimerais quand même vous donner, parce que celui-ci, il est plutôt positif. Le risque de départ sur un an, donc, chute de 72% quand la relation est bonne avec le manager. D'où l'importance, toute l'importance de ce manager. On dit parfois qu'il est artificiel. Manager, qu'est-ce que c'est finalement, à part dire tu fais ci, tu fais ça? Non, là, c'est une relation aussi de confiance qui permet d'éviter le turnover et de faire en sorte que les équipes se sentent bien. Ce qu'on voit à travers ces chiffres, en tout cas.
Je pense que le chiffre, il traduit quelque chose que tout le monde connaît, qui est on reste grâce à son manager, on part à cause de son manager. Ça fait des années qu'on mesure ça. Je veux juste revenir au métier du manager. Manager, c'est quoi? C'est encadrer des individus et des équipes. C'est un vrai boulot. C'est poser un cadre.
C'est RH aussi.
C'est poser un cadre. Mmh. C'est soutenir ses collaborateurs pour qu'ils arrivent à performer dans ce cadre. Et aujourd'hui, Stéphane l'évoquait, on est dans un monde qui bouge à une telle vitesse que c'est aussi réconcilier en permanence des injonctions contradictoires et faire cette synthèse tout en délivrant l'opérationnel. Donc c'est un métier extrêmement difficile. Un manager, c'est un salarié comme un autre. Ouais. Et il a besoin des soutenu et il a besoin de support, plus que jamais.
Il faut former les managers pour qu'ils soient bons.
Oui, bien sûr. Alors, ils sont formés depuis très très longtemps, mais on voit bien qu'il y a quand même, derrière tous ces axes de formation, quand même des choses encore à imaginer. Je crois qu'aujourd'hui, dans le management, et je pense que l'étude le montre très bien, c'est que les managers sont pris face à une double injonction. D'un côté, on leur demande d'être très exigeants, ils doivent délivrer des résultats, et de l'autre côté, il y a cette injonction à la bienveillance. Il faut être très attentif au bien-être de ses salariés. Or, en réalité, pour beaucoup de personnes, être exigeant et bienveillant en même temps, c'est quelque chose de particulièrement compliqué. Donc, si tu es trop exigeant, tu risques d'avoir dans ton bureau débarquer les DRH et éventuellement les partenaires sociaux. Si vous êtes trop bienveillant, vous allez voir aussi les DRH, ce qui montre aussi la place de la DRH dans l'organisation, et peut-être la direction générale. Donc, dans le fond, vous êtes systématiquement perdant. Alors, je pense qu'une vraie question qui est à se poser derrière ça, c'est de se dire et de réaliser, et c'est ce que disait Fanny, c'est aujourd'hui, les managers sont dans une situation dans laquelle on leur a confié de plus en plus de responsabilités, et ils ont parallèlement de moins en moins de pouvoir. Or, quand on a beaucoup de responsabilités et pas beaucoup de pouvoir, on est dans une situation extrêmement compliquée.
D'accord avec ce constat, Fanny Potier-Coninx?
Oui, tout à fait. Alors, je vais rajouter quand même que, hors de cette étude, mais une autre étude, on a interrogé beaucoup de gens dans le monde il y a quelques années, et on leur a demandé ce qu'ils attendaient de leur manager et de leur leader. Ils attendent du cœur. Donc, quand on a cette tension qui existe dans toute situation managériale, pour les raisons que donnait Stéphane, il faut quand même savoir que le management va plutôt vers l'exigence et l'opérationnel et a tendance à pas forcément délivrer sur la dimension de cœur et de bienveillance, qu'on peut appeler comme on veut. Mmh. Et c'est quoi le cœur? C'est l'écoute, c'est donner du sens. Donc réconcilier en fait ces injonctions en donnant du sens, en faisant de la synthèse et en expliquant pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et c'est développer les collaborateurs, les faire grandir.
Les rendre fiers aussi de leur entreprise, leur montrer qu'ils sont utiles dans cette structure. Parfois on se dit qu'en fait je suis un pion, je suis un numéro dans l'entreprise.
Valoriser la contribution,
ça c'est jamais bon.
Exactement. Dans le sens, c'est ce que j'appelle donner du sens. Il y a le sens vers quoi l'organisation va, et puis toi, qu'est-ce que tu apportes à cette direction.
Stéphane, le feedback là-dedans, ça apporte beaucoup de choses.
Oui, alors bien évidemment, j'ai un point de vue qui n'est pas complètement objectif sur le sujet, mais effectivement, le feedback, c'est un petit outil, et quand on le manie bien, c'est à la fois un outil qui permet d'avoir un impact sur la reconnaissance, c'est un outil qui permet d'accélérer l'apprentissage, et c'est un outil qui permet d'améliorer les performances. Alors, pour un tout petit truc, on comprend aujourd'hui qu'un certain nombre de grandes organisations et de plus petites organisations s'intéressent à ce sujet-là.
On parlait de la motivation, du fait qu'il y ait un salarié sur quatre qui ne se projette pas, ça ne veut pas dire qu'il part, mais il ne se projette pas forcément à plus d'un an dans son entreprise. On voit aussi que, malgré ce qu'on a pu dire depuis la crise sanitaire en disant qu'on cherchait du sens au travail, bien sûr, il y a des priorités qui restent des grandes priorités, à savoir le salaire, la rémunération, c'est vraiment un argument, les avantages sociaux, l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, elle arrive un peu plus tard.
Alors, c'est la dimension contrat social de l'étude. Effectivement, il y a quand même des basiques qu'il faut avoir bien en place. Donc, vous le disiez, c'est les horaires et le salaire. Enfin, le salaire et les horaires dans cet ordre-là. Après, moi, mon invitation en matière de contrat social, c'est d'être un petit peu plus riche et de créer des options, en fait. Et de se dire, en tant que salarié, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, c'est intéressant de se donner une palette en tant qu'organisation et de se dire, peut-être je peux... alors, pour certains, il y a une voiture, pour d'autres, il n'y en a pas. J'ai tel type d'horaire pour certains, tel type d'horaire pour d'autres. En matière d'avantages sociaux, bah, j'ai des options qui sont liées à votre statut familial.
De la souplesse.
De la souplesse.
Ouais, on s'adapte aussi au profil de chacun.
Exactement.
On aura dans quelques minutes, à la fin de cette émission aujourd'hui, dans le Labo RH, le fondateur de Supermood, pour parler de la tradition peut-être obsolète des entretiens RH annuels. Aujourd'hui, il faut plus ce type de format où on se voit une fois par an et puis on vide son sac, on dit voilà ce qui va bien, ce qui va pas. Il faut des rendez-vous plus réguliers. Ça peut aider aussi à faire en sorte qu'on soit mieux dans son entreprise.
Ah bah. Je crois qu'il y a une nécessité de l'entretien annuel, mais pas pour les raisons qu'on croit. Il y a une nécessité de l'entretien annuel parce que les directions des ressources humaines, les directions générales, ont besoin d'avoir des cotations, des évaluations, des gens dans des matrices pour prendre un certain nombre de décisions sur des augmentations salariales, sur des enveloppes de bonus, sur des promotions. Mais à côté de ça, il y a une dérive dans le temps où on a fait de l'entretien annuel un outil de dialogue, de communication. Et donc, globalement, c'était 364 jours où finalement on pouvait ne pas se parler, puis le 365e, il fallait tout se dire.
Ça, on peut plus, c'est fini.
Et ça, aujourd'hui, bah, ça existe encore, mais ça disparaît, et fort heureusement. Et donc, l'idée aujourd'hui de toutes ces entreprises qui essayent de mettre en place des nouvelles formes de culture, plus fondées sur l'engagement, plus fondées sur l'humain, plus fondées sur la reconnaissance, plus fondées sur le feedback, eh bien, elles privilégient ce dialogue au quotidien.
Eh bien, restez avec nous parce qu'on parlera de ça dans quelques minutes. Donc, merci beaucoup Stéphane Moriou, conférencier spécialiste du feedback, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations chez Duno, et Fanny Potier-Coninx, associée au BCG, experte des questions de leadership. Merci d'avoir été avec nous, c'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Et cette semaine, Adeline, la DRH, a décidé de mettre fin au travail à distance, et je crois que ça passe assez mal.
Voilà, la politique de l'entreprise, c'est le retour au bureau. Donc, il est 11h, je vous veux tous dans l'open space à 13h. Oui, même ceux qui bossent depuis Bali, hein. Tu te débrouilles, Brian, tu prends le jet privé de ton père. Non, le télétravail, c'est pas bien, Corinne. On a besoin de se voir pour parler, pour collaborer, hein. L'être humain a besoin de connexion. C'est prouvé dans une étude que j'ai sous les yeux, une étude très très sérieuse. Voilà. Comment ça, vous voulez de l'autonomie? Mais tu feras ce que tu veux en open space, Jean-Michel! Non, on peut pas remettre en cause les pratiques de travail traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Plus de questions, non? Allez, vous verrez tous à 13h30. Non, pas moi, je peux pas, là, j'aurais bien aimé, mais j'ai un empêchement.
Happy Boulot, le labo RH.
Et Jeanne est de retour en 4 minutes. Jeanne, aujourd'hui, avec notre invité, le fondateur de Supermood.
Oui, on va reparler de feedback avec Supermood. C'est une plateforme de feedback pour les entreprises. Et nous sommes avec son fondateur, Kevin Bourgeois. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Vous avez fait un constat, Kevin. Les enquêtes RH annuelles, c'est une tradition obsolète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, du coup, ce constat que vous avez fait?
Oui, tout à fait. Alors, l'enquête annuelle, c'est mieux que rien. C'est déjà, il faut le dire.
C'est obligatoire, non?
C'est obligatoire. En tout cas, on a l'obligation de faire attention à ses salariés.
Au moins une fois par an.
Au moins une fois par an.
C'est
voilà.
Le minimum.
Par contre, le constat, c'est que c'est une fois par an. Et donc, c'est comme conduire sur l'autoroute et puis allumer ses phares de temps en temps. Bah, s'il y a des virages, il y a un petit problème. Et donc, l'idée, pour passer dans le nouveau monde, c'est de faire ça beaucoup plus régulièrement, de façon moins rigide, beaucoup plus souple, beaucoup plus instantanée.
Donc avec plus d'échanges, mais aussi des moyens techniques, logistiques, plus simples pour voilà, qu'on n'ait pas forcément à chaque fois avoir un entretien de 30 minutes avec chaque salarié 2-3 fois par an. Parce que ça devient aussi compliqué pour la direction.
Exactement. C'est pour ça qu'on le faisait qu'une fois par an. Avant, on allait sur le terrain avec des questionnaires papier. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde répond. Vous avez les résultats en direct. Vous avez 80% de taux de réponse. Et même l'analyse, c'est ce qu'on fait, hein, se fait par intelligence artificielle. Donc, l'idée est plus du tout dans la récolte, mais dans l'action. Et donc, pour voir si vos actions ont un impact, il faut mesurer régulièrement.
Comment on réinvente, du coup, ces échanges entre, du coup, les salariés et le patron pour que ce soit peut-être un peu moins informel, pour qu'il y ait plus d'échanges? Comment on réinvente ça?
Ouais. Alors l'idée, c'est de le rendre plus informel en disant que c'est un dialogue et pas non un audit de 80 questions une fois par an. L'idée, c'est de dire on va rentrer dans un dialogue. Ce dialogue, il est nécessaire pour au moins que la direction comprenne que fait l'entreprise. Et puis ensuite, c'est tous ensemble qu'on va se responsabiliser pour prendre des actions et puis itérer petit à petit à la place que ça soit le gros audit qui doit tout changer la semaine d'après.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont réceptives à ça? Elles sont prêtes?
Alors déjà, il y a 90% des grosses entreprises, en tout cas, qui sont équipées d'enquêtes annuelles. Et nous, c'est notre métier, ça, on constate une croissance énorme du pulse, qui est des choses plus informelles, plus régulières.
On a des preuves que ça fonctionne, parce que Supermood existe quand même depuis maintenant un petit moment. Vous pouvez voir les remontées qu'on vous fait. Je crois que vous développez encore des nouvelles fonctionnalités, c'est que ça marche.
Oui, exactement. Alors, notre métrique, c'est on augmente l'engagement de 20 points en 12 mois chez les clients qu'on accompagne. Et on ne gagne pas 20 points d'un coup, on gagne 20 points petit point par petit point pendant 12 mois. Mmh. Et donc, c'est ça qui est important. Et puis ensuite, on développe plein de choses pour aider à passer à l'action.
Là, le prochain gros travail que vous faites, c'est sur les managers et les faire mieux communiquer entre eux. C'est ça, c'est la prochaine innovation là, qui arrive.
Exactement. Les managers nous demandent qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai mes résultats. Et ce qu'ils veulent, c'est parler à quelqu'un qui l'a déjà fait. Et donc, on lance Connect, qui permet de connecter ces managers en format flash, 30 minutes, pour qu'ils échangent entre eux sur les problématiques et les challenges du quotidien.
Combien d'abonnés aujourd'hui?
250 salariés. 250 entreprises, ouais. Et 500 000 salariés qui sont interrogés chaque mois.
Avec des objectifs de croissance, de rentabilité. La 2024, ça va être une année pivot.
Oui, la rentabilité dans deux mois, on y est. Et puis le lancement de Connect, qui est le gros objectif pour cette année.
Eh ben, on vous suivra, hein, bien sûr, dans Happy Boulot. Bravo et félicitations. Merci beaucoup, Kevin Bourgeois, fondateur de Supermood. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, Jeanne. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo et Charlotte cette semaine en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, soyez heureux le plus possible au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.